Bonjour. Ce matin, je vous propose une lecture dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean. Il s'agit d'un récit. Et il est la question de la relation de Jésus avec trois personnes, deux sœurs et un frère, qui sont Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus, il avait une relation particulièrement étroite avec eux. Ils étaient un peu comme la famille. Et au début du chapitre, au verset 3, Lazare est décrit par ses sœurs en parlant à Jésus, « C'est celui que tu aimes », qui est une expression qu'on retrouve dans l'évangile de Jean et qui est appliquée vraiment pour les disciples intimes de Jésus. Donc voici pour le contexte, et on constate qu'on apprend au début que Lazare tombe malade, et il tombe même très malade. Et du coup, Marthe et Marie, ses sœurs, ils envoient un message, un SOS à Jésus qui était ailleurs. Et donc ils envoient, donc ça prend du temps, lui demandant de venir. Mais Jésus tarde un peu et Lazare meurt entre-temps avant que Jésus ne soit sur place. Et c'est maintenant qu'on commence la lecture à partir du verset 17, donc de Jean 11. Et je vous propose, je vous demande d'être attentif pendant cette lecture à ce que nous apprenons de la personne de Jésus. Qui est Jésus? Quel est son caractère? Quelle est son identité? Voilà. Quand Jésus arriva près de Béthanie, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, à environ 3 kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Mais Marie resta à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Et Jésus déclara, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus ajouta, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?»« Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Et après avoir dit cela, Marthe s'en alla appeler sa sœur Marie et lui dit en privé, « Le maître est là et il te demande. » À ces mots, elle se leva immédiatement et alla au-devant de Jésus. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Quand les Juifs, qui étaient dans la maison avec Marie pour la consoler, la virent se lever en hâte et sortir, ils la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva où se trouvait Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus la vit pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. Il leur demanda, « Où l'avez-vous mis ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » On arrête ici la lecture, on lira la fin, vers la fin du message. Avez-vous noté quelque chose qui m'a vraiment frappé? C'est que Marthe s'approche de Jésus et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Il voit Marthe seule et plus tard, il voit Marie et elle lui dit exactement les mêmes paroles, les mêmes mots, mot à mot, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Alors, ça c'est quelque chose, mais ce qui est vraiment remarquable, c'est que les réponses de Jésus à Marthe et Marie sont totalement différentes. À quelques instants près, Les deux font la même déclaration. C'est presque un reproche qu'elles font. Elles sont vraiment dans la même situation. Ce sont deux sœurs qui viennent de perdre leur frère qu'elles aiment. C'est en quelque sorte les funérailles. On est au milieu des funérailles. Il y a aussi des amis, tout plein de personnes sont là qui pleurent. Elles utilisent les mêmes mots, mais Jésus va répondre à chacune de manière très différente. Avec Marthe, donc, Jésus réagit assez vivement. Elle va dire, donc, mon frère ne serait pas mort si tu étais là. Et il va lui parler de résurrection. Et elle, tout de suite, elle confesse, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour, au jour de la résurrection. Mais elle est dans la tristesse et le chagrin. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il va lui faire cette déclaration. Moi, je suis la résurrection et la vie. Il lui dit, je suis là, les choses vont changer, crois-tu cela? Et là, nous avons cette formidable confession de foi de Marthe. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et quelques minutes, ou je ne sais pas, une demi-heure après, je ne sais pas exactement, c'est Marie qui vient, elle aussi, elle sort maintenant, elle vient rencontrer Jésus. Elle dit exactement les mêmes paroles. Et cette fois-ci, Jésus réagit très différemment. En fait, il est principalement sans voix. Il ne peut vraiment pas dire grand-chose, si ce n'est « mais où est-ce qu'on l'a mis ?» En voyant Marie pleurer, il est saisi d'émotion, il est bouleversé, il ressent son chagrin et il éclate en sanglots. Je pense que vraiment, quand il est dit « Jésus pleura », c'est vraiment quelque chose de très fort, de très visible. Il éclate en sanglots. Et tout ce qu'il peut donc dire, mais où est-il? Alors, pourquoi des réactions si différentes des deux sœurs? Une réaction si différente de Jésus aux paroles des deux sœurs, c'est que ça nous montre... Ça nous révèle en quelque sorte la profonde sagesse de Jésus, sa profonde sagesse relationnelle. En fait, ce matin, au départ, je voulais vous parler d'un autre sujet, qui est celui de notre besoin absolu de sagesse. Dans la Bible, partout, il est écrit, nous avons besoin de devenir sages. Devenez sages, nous dit le livre des Proverbes, et comme on est en train de l'étudier les jeudis soirs, j'avais envie de montrer vraiment l'importance dans notre vie de devenir sage. Et les textes sont multiples, il y a le livre des Proverbes, il y a le livre de Jacques, il y a même l'apôtre Paul. Mais Thomas m'a aidé à me décider, il a dit il faut qu'on utilise l'évangile dans nos prédications. Et nous voilà donc avec ce texte où on voit la sagesse de Jésus, la manière dont il répond à ces deux femmes. C'est très bien illustré ici, dans cet échange. Tout d'abord, la sagesse en une phrase, c'est le don de Dieu qu'il nous faut demander, il va nous le donner, chercher. Et ensuite, c'est le cheminement de toute notre vie, de mise en pratique, pour devenir sage. D'accord ? Ce n'est pas un truc, clac, maintenant tu es sage. Non, c'est un cheminement, c'est un parcours. Et il en a été de même pour le Seigneur Jésus. Au début de l'évangile de Luc, Jésus est enfant, et qu'est-ce que nous lisons ? Il est dit, il a grandi en sagesse et en grâce. Il avait environ 12 ans, et Jésus, il a grandi en sagesse. Et c'est pourquoi, par rapport au texte d'aujourd'hui, il a su discerner ce dont chacune des deux sœurs avait le plus besoin d'entendre à ce moment-là. Jésus a été sensible à la condition du cœur de chacune. Les deux étaient bouleversées par la mort de leur frère, mais l'une avait besoin d'être encouragée sur le terrain de la vérité, de l'assurance du salut, de la vie éternelle, alors que l'autre avait besoin, à ce moment-là, d'être rejoint, accompagné dans les pleurs, sans parole. Jésus se rend vulnérable et souffre avec elle de la perte de son frère. C'est ce que j'appelle la profonde sagesse relationnelle de Jésus. Et nous aussi, Demandons à Dieu de nous donner la sagesse. Répondons à son invitation à devenir sage, parce que c'est tellement essentiel quand de parler comme Jésus l'a fait ici, pour nous aussi et pour notre prochain avec qui nous sommes en relation, de parler en amour et en vérité comme Jésus, avec cette sagesse-là. Voilà, revenons maintenant à la chose principale de ce que nous apprenons sur le caractère et l'identité de Jésus dans ce texte. Donc, je veux juste vraiment insister, ici, c'est un événement qui s'est vraiment passé, d'accord ? Jésus ne parle pas en parabole, c'est vraiment quelque chose de concret, d'ailleurs de bouleversant, puisque on est au milieu d'une tragédie. Et c'est là, il utilise cette circonstance pour nous enseigner qu'il est, lui, à la fois totalement Dieu et entièrement, pleinement homme. Et il n'est pas seulement Dieu déguisé en homme, et il n'est pas seulement homme avec un air de divinité. Il est le Dieu-homme. Et ses rencontres, d'abord avec Marthe, puis avec Marie, nous le montrent. Avec Marthe, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». C'est clairement une revendication de sa divinité. Seul Dieu peut donner et reprendre la vie. Et notez que Jésus ne dit pas simplement « Je peux ressusciter Lazare, j'ai un don divin pour le faire ». Il dit « Je suis la résurrection, je suis la vie ». En quelque sorte, il dit « J'ai le pouvoir de détruire la mort. Je suis la puissance qui donne la vie à tout et qui maintient tout en vie ». Et ce n'est pas le seul endroit dans les évangiles où Jésus fait une telle déclaration. Il clame sa divinité tout au long des évangiles. En fait, si on rajoute à ces références directes, les références un peu indirectes, ces affirmations d'identité se trouvent à toutes les pages des évangiles, ou presque. Et je donne juste un exemple de ce que j'appelle une revendication indirecte. Une qui a vraiment choqué ses contemporains, c'est cette déclaration répétée que Jésus pardonne les péchés. Parce que seul Dieu peut pardonner les péchés. Par exemple, lorsque Jésus dit à l'homme paralysé « Mon fils, tes péchés sont pardonnés », ben dans l'entourage, tous ceux qui entendent ça comprennent bien que Jésus prétend être Dieu. Et en parlant ainsi, qu'est-ce que ça signifie que Jésus pardonne les péchés ? Ça signifie qu'il affirme que je suis le créateur et le propriétaire de la race humaine et que par conséquent, tous les péchés sont contre moi. D'accord ? Nous voyons facilement quand nous péchons contre quelqu'un, quand on lui fait du tort, quand on l'offense, etc., et qu'on doit régler ça avec la personne, mais quand nous péchons contre une personne, c'est contre Dieu lui-même que nous nous dressons. Toutes les violations, tous les torts sont contre Jésus. C'est ce qu'il nous dit par là, en affirmant que lui pardonne les péchés. Mais il y a aussi les affirmations directes de sa divinité, comme celles qu'on vient de lire dans notre texte, c'est-à-dire les « je suis » de l'évangile de Jean. Je vous écoute, quels sont les « je suis » dans l'évangile de Jean ? Vous vous souvenez ? Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Et tout de suite après, le bon berger. Et je suis le cep, j'ai entendu. Voilà, je suis le vrai cep. Voilà. Bon, ceux qui savent, il y en a sept exactement. Et tiens, je n'ai pas entendu celle que je vais encore dire au chapitre 14. Jésus dira aussi quelque chose que je trouve assez proche de notre texte aujourd'hui. Il affirme non seulement qu'il a la vérité, mais qu'il est la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Dans l'autre sens, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Et donc c'est à cause de ces nombreuses déclarations directes et indirectes que Jésus a, de sa divinité, que Jésus a subi une opposition féroce de ceux qui l'écoutent, et notamment, bien sûr, ceux qui détiennent l'autorité religieuse en particulier. Et très rapidement, c'est pour ça qu'on essaye de le faire taire presque tout au long de l'Évangile. Et maintenant, réfléchissons aussi à quel point ça doit être difficile d'accepter ces telles déclarations. D'accord ? Si quelqu'un venait nous dire ça aujourd'hui, on ne peut pas l'accepter comme ça. Et donc, qui pouvait-il convaincre par ces déclarations ? Et comment ? Qui allait le suivre ? En fait, dans les évangiles, on voit surtout de la résistance, on voit beaucoup de résistance, il y a ses disciples et des foules. Mais dès que Jésus est ressuscité des morts, dès que l'Église est formée, ça se répand extraordinairement vite. L'Église va très très vite grandir. Et pourquoi ? C'est pas seulement à cause de ces déclarations. Il fallait que les gens réalisent que ces déclarations sont vraies. C'est sa vie d'homme qui l'accompagnait, qui a prouvé que Jésus est Dieu. Et donc, quel genre de personne a-t-il dû être pour surmonter cette grande résistance à ses affirmations d'être Dieu ? C'est tout simplement qu'il devait ressembler à l'être humain au caractère incomparable qui est dépeint tout au long du Nouveau Testament. C'est parce qu'il est celui dont nous lisons dans le Nouveau Testament. Il est exactement lui. Et les gens, quand ils l'ont cru, quand ils l'ont reçu dans leur vie, ça les a totalement transformés. Et nous sommes en plein dans un chapitre qui nous en dresse un portrait magnifique. Nous avons, lorsque Jésus rencontre Marthe, vraiment un aperçu de sa divinité, de son pouvoir. Il est Dieu. Bien sûr, il faut lire la fin du chapitre pour le voir en vrai. Et Marthe fait cette confession de foi formidable. Tu crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais ce premier échange n'explique pas la totalité de qui Jésus est, de qui Jésus homme est. Et dans le moment suivant, avec Marie, il s'effondre en sanglots sous le poids du chagrin. Et d'ailleurs, on pourrait penser que si une personne était vraiment divine, elle ne serait pas aussi exposée émotionnellement. Mais ce n'est pas le cas. On lit comment Jésus est vraiment. Ici, la divinité s'allie à la vulnérabilité humaine. Son amour pousse Jésus à pleurer. Et bien qu'il affirme être la résurrection et la vie, qu'il est Dieu, il répond à Marie de cette manière parce qu'il est aussi pleinement homme. Il ne fait qu'un avec nous. Il ressent l'horrible pouvoir de la mort et le chagrin causé par la perte donc du frère. Et nous, réalisons à quel point nous aussi nous avons besoin de Jésus, qu'il vienne nous rencontrer dans nos vies, dans nos tragédies, nos questionnements. Mais pas seulement, on a aussi besoin de lui quand tout va bien, parce qu'on a tendance à l'oublier. Donc c'est Jésus, Dieu, homme, qui parle à ces deux femmes. À Marthe, il lui donne le message de vérité. Elle en a besoin, parce que c'est Marthe, c'est son caractère aussi. Et quand il arrive à Marie, il lui donne le ministère des larmes. Il ne dit rien. Il entre dans son chagrin en toute sincérité et il pleure avec elle dans sa faiblesse. Mais un autre jour, Marthe aura besoin du ministère des larmes. Et un autre jour, Marie a besoin du ministère de la vérité. Et on sait bien qu'elle en avait besoin. C'est elle qui était assise au pied de Jésus pour l'écouter, alors que sa sœur Marie dit « Tu dois m'aider à la cuisine ». Donc tous, Marthe et Marie, ils avaient besoin des deux, besoin de la vérité, besoin d'être accompagnés dans là où nous en sommes, et Jésus a fait les deux. Et nous aussi, réalisons-nous à quel point nous avons besoin des deux ministères, de la vérité et des larmes, selon les moments, et parfois on a plus besoin d'entendre la vérité, on a besoin d'une petite tape sur l'épaule d'un ami attentionné qui nous dit « réveille-toi, arrête de faire ce que tu es en train de faire ». Et d'autres fois, nous avons besoin d'un ami qui pleure avec nous. Mais là où nous avons besoin de sagesse, c'est parce que parfois, si on impose la vérité aux autres lorsqu'ils sont affligés, ben c'est totalement déplacé. Et d'autres fois, si nous nous limitons à pleurer avec les autres, alors qu'ils ont besoin d'entendre également la vérité, ben là aussi, c'est une erreur. Et aucun d'entre nous n'a naturellement le tempérament, la patience, la perspicacité nécessaire pour donner aux autres exactement ce dont ils ont besoin. Et c'est un peu lié à notre personnalité. En fonction de notre personnalité, nous allons plutôt confronter les autres, alors que la sympathie pourrait être de mise, ou au contraire, on va se taire et pleurer alors qu'il faudrait dire quelque chose à notre prochain. D'où notre besoin de grandir dans la sagesse, parce que Dieu veut nous donner ce discernement pour que nous sachions confronter en vérité et avoir le cran de le faire, mais aussi d'avoir la sympathie pour pleurer avec ceux qui pleurent. Et Jésus, Dieu homme, nous montre l'exemple, nous l'apprend. Jésus, il n'est jamais dans la force lorsqu'il devrait être dans la douceur, ni dans la douceur lorsqu'il devrait être fort. C'est lui le conseiller et le consolateur parfait. Et plus encore, on l'a cité dans Jean 14, il est la vérité elle-même qui se manifeste dans les larmes. Il est Dieu incarné dans notre chair. Donc c'est ce paradoxe que le fait que Jésus soit à la fois Dieu et homme qui lui donne son identité et son caractère incomparable. Dans Apocalypse, chapitre 5, versets 5 et 6, au verset 5, il est le lion, et au verset 6, il est l'agneau. Jésus, c'est le lion de Juda qui a vaincu la mort, et c'est aussi l'agneau immolé qui rachète le pécheur. Il est les deux. Comment nous le représenter? Ça me rappelle une petite anecdote qui n'est peut-être pas complètement à propos, mais c'est juste pour montrer que c'est pas simple. Un jour, un pasteur hébergeait un artiste peintre pour quelques jours, et cet artiste peintre, il dessinait des magnifiques lions. Et le pasteur dit, c'est vraiment super, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me dessiner un agneau? Et le peintre lui répond, je ne peux pas, je ne sais dessiner que des lions. Ouais. Mais comme il reste quelques jours, tous les jours, le pasteur insiste, dessine-moi un agneau. Et pour finir, il cède, il lui répond, ok, je vais te dessiner un agneau. Mais il ne faudra pas te plaindre si cet agneau ressemble à un lion. Ouais. Dans un verset, Jésus est représenté comme le lion de Juda, et dans le suivant, comme l'agneau immolé. C'est pas facile à se représenter, alors qu'il y a deux représentations là. Et ce paradoxe, Jésus entièrement Dieu et entièrement homme, avouons qu'il reste difficile à saisir. Et quand nous lisons, nous essayons de comprendre les évangiles, on a tendance à dire, oui, là, c'est vraiment, il est Dieu, et là, il est homme. Mais en fait, en regardant de près, ce n'est pas si facile. Il est les deux tout le temps. Et j'aimerais vous lire une citation de quelqu'un qui décrit Jésus-homme, Jésus-Dieu-homme, comme il est présenté dans les évangiles. Malgré ses prétentions élevées, Jésus n'est jamais pompeux. On ne le voit jamais se reposer sur sa propre dignité. Bien qu'il soit absolument accessible aux plus faibles et aux plus brisés, il ne craint absolument pas les corrompus et les puissants. Jésus a de la tendresse sans faiblesse, de la force sans dureté, de l'humilité sans le moindre manque de confiance. Il a l'autorité incontestable avec une absence totale d'égocentrisme. Il a la sainteté, les convictions inébranlables, sans le manque d'accessibilité. Il a la puissance, sans être insensible. Et ça continue, d'accord ? Ça continue sur plusieurs pages encore. Voilà Jésus, Dieu-homme, incomparable, unique, parfait. Jésus est merveilleux. Maintenant, encore une question, pour terminer. Pourquoi Jésus est-il devenu homme ? Pourquoi a-t-il fait cela ? Pourquoi celui qui a la puissance absolue devait-il entrer dans notre faiblesse ? Lisons la suite du récit, ou pas tout à fait l'ensemble, mais lisons une dizaine de versets encore. Je reprends. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ?» Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. C'était une grotte dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. « Enlevez la pierre, » dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, répliqua, « Seigneur, il doit sentir mauvais, car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Moi, je sais que tu m'écoutes toujours, mais je parle pour cette foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après ces mots, il cria d'une voix très forte, « Lazare, sors !» Le mort sortit. Les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Et un peu plus loin dans le texte, ils réunissent le Sanhédrin et la conclusion, verset 53, « À partir de ce jour-là, ils décidèrent de faire mourir Jésus. » Il y a une parole encore qui est dite 2 fois de Jésus, c'est sa colère. Au verset 33, « Quand Jésus la vit pleurer, Marie, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, il ressentit une forte colère et se troubla. » Et là, nous venons de relire, « Alors Jésus, ressentant de nouveau une forte colère, se rend au tombeau. » Alors j'ai volontairement choisi la traduction de la Bible en la Nouvelle Français Courant, parce qu'elle exprime assez bien ce que l'original veut dire et qui n'est pas exprimé aussi clairement dans la plupart des traductions. Jésus ressent une forte colère. Et contre qui Jésus est-il en colère ? Alors je ne vous le dis pas avec assurance, parce que les commentateurs disent des choses différentes, et comme effectivement le texte n'est pas très précis là-dessus, mais je vous dis quand même quelques éléments. Tout d'abord, je peux vous dire contre qui il n'est pas en colère. Il n'est pas en colère déjà avec la victime. Il n'est pas comme les amis de Job à dire bah, « Lazare, s'il lui est arrivé ça, c'est qu'il a fait quelque chose ». Il n'est pas non plus en colère avec ceux qui sont en larmes. Il les aime, les sœurs, les amis, la foule. Et il n'est pas non plus en colère contre lui-même. Il affirme qu'il est Dieu, il n'est pas en colère contre Dieu, il est cohérent, il sait ce qu'il fait. Alors, contre qui est-il en colère ? Il se trouve que la traduction que j'ai prise, elle a mis une petite note, une petite explication. Une forte colère. Il s'agit d'une colère, d'un bouleversement intérieur contre la puissance de la mort et la tristesse qu'elle provoque. Jésus est en colère contre le mal et la souffrance. c'est une bonne piste d'explication. Et j'aimerais, je pense aussi à autre chose, une autre explication de l'orientation de sa colère, mais qui dit à peu près la même chose, c'est que quand il réalise, dans sa condition d'homme, à quel point l'aveuglement dû au péché empêche ses amis, empêche ceux qui sont autour, à qui il parle, de voir, de comprendre qui il est vraiment, ce qu'il est sur le point de faire. En fait, Jésus sait ce qu'il va faire, mais tout reste dans le deuil, dans la détresse, et ne réalise pas qui il est vraiment. Que ce soit Marthe et Marie qui, en quelque sorte, lui font le reproche. Si tu avais été ici, ça ne serait pas arrivé. On vient de le relire, la foule autour. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, pourquoi ne pouvait-il pas aussi empêcher Lazare de mourir ? Tous auraient aimé que Jésus empêche la mort de Lazare. Et nous le comprenons, nous aussi, nous aurions aimé. Et ils lui le disent et le lui répètent. Mais Jésus sait ce qu'il va faire. Mais là, il se trouve tout seul. Il est dans une grande solitude. Or, pourquoi le fait-il ? Pourquoi n'était-il pas à l'heure ? Le début du récit nous le dit. La réponse, c'est par amour. Par amour pour Marie, Marthe, Lazare et pour nous. Au début, il nous est dit « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Lorsque Jésus a appris cette nouvelle, il dit « La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle servira la gloire de Dieu, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jésus savait ce qu'il faisait, et maintenant que nous arrivons à la fin du récit, nous comprenons pourquoi Jésus ne pouvait pas épargner cette épreuve à Marthe, à Marie, à Lazare. C'était le prix pour voir la gloire de Dieu, pour connaître sa présence, pour voir la gloire du Fils de Dieu manifestée. Et une fois que Lazare est ressuscité, une fois qu'ils ont vu cette démonstration, ils ont cru et leur foi n'a plus jamais été la même. Marthe, elle a encore douté lorsqu'elle a dit « Mais il est dans le tombeau depuis 4 jours, il sent déjà », alors qu'elle voulait croire. Mais c'est cette démonstration ici que maintenant elle a confessé, mais là elle a vu. Et ça a changé les choses. Et donc la colère de Jésus, c'est donc contre la puissance du péché qui aveugle et qui enferme, qui nous empêche de voir tel Jésus tel qu'il est, voir et recevoir donc son salut. Alors pourquoi Jésus est-il venu ? C'est mon dernier point, mais c'est aussi le point qui va nous introduire au temps de scène qui va suivre immédiatement. On vient de dire, ou du moins je le dis comme ceci, le mal et la mort sont le résultat du péché, seul, et non pas du dessein originel de Dieu. Dieu n'a pas créé un monde rempli de maladies, de souffrances et de morts. Le problème, c'est notre péché. Et nous le savons, au fond de nous-mêmes, que si tant de choses vont mal dans le monde, c'est à cause du cœur humain. L'égoïsme, l'orgueil, la cruauté, la colère, l'oppression, la guerre, la violence sont à l'origine d'une grande partie de notre misère aujourd'hui, ici-bas. Et la solution, Dieu aurait pu envoyer Jésus sur terre avec l'épée de la colère de Dieu contre le mal pour régler le problème du mal. Mais si nous disons ça, nous allons tous être anéantis, parce que nous aussi, faisons partie du problème. Notre cœur aussi a besoin d'être délivré du mal. Et la Bible dit que tous ont péché, et nous en faisons partie. Mais Jésus n'est pas venu avec une épée dans les mains. Il est venu les mains vides et il a reçu les clous. Ses mains ont été percées par les clous pour porter notre jugement. Jésus n'est pas venu apporter le jugement, il est venu porter le jugement sur lui. Et c'est la fin du passage que nous venons de lire qu'il nous le montre. Lorsque les chefs religieux sont prévenus de ce que Jésus a fait dans cette démonstration de puissance en ressuscitant Lazare, ils prennent peur. Et au lieu de donner gloire à Dieu, au lieu de croire et de louer Dieu, ils complotent pour lui ôter la vie. Et Jésus, il savait tout cela, il en avait conscience. Il savait que s'il ressuscitait Lazare, les autorités religieuses essaieraient de le tuer. Il savait que le seul moyen d'interrompre les funérailles de Lazare, c'était de convoquer les siennes. S'il voulait nous sauver de la mort, il devait aller à la croix et porter le jugement que nous méritons. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus s'est approché du tombeau de Lazare, au lieu de se réjouir à la perspective de faire un grand miracle, il tremblait de colère, il avait des larmes sur les joues, il savait ce qu'il lui en coûterait de nous sauver de la mort. Et peut-être a-t-il senti les mâchoires de la mort se refermer sur lui. Il a eu ce jour-là peut-être un avant-goût de la justice éternelle qui allait tomber sur lui, celle que nous avons méritée, lorsqu'il va être crucifié. Et pourtant, sachant tout cela, expérimentant toutes ces émotions, il s'est écrié « Lazare, sors !» Et les témoins ont dit de Jésus « Voyez comme il a aimé Lazare !» Et nous, ce message, c'est pour nous dire « Voyez comment il nous a aimés, voyez comment il nous aime !» Jésus est devenu humain, mortel, vulnérable, destructible, tuable, je ne sais pas ce qu'elle dit. Tout cela par amour pour nous. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce que ce récit que nous venons de lire se trouve dans nos Bibles. Merci Seigneur, parce que même si au début on ne comprend pas, merci parce que Jésus a tardé avant d'aller à Béthanie, afin que ses amis puissent voir la gloire de Dieu et être transformés. Mais merci parce que nous avons ce récit pour chacun de nous ce matin. Tu viens nous rencontrer aujourd'hui avec des paroles de vérité et tu pleures avec nous dans notre épreuve. Seigneur Jésus, tu es le merveilleux consolateur, conseiller et celui qui nous remet debout et qui nous conduit. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire, voir ton amour, le réaliser. Seigneur, voir ton amour qui t'a conduit à la croix, qui est le seul moyen de notre salut. Seigneur, tu as payé le prix suprême pour que nous vivions. Tu as donné ta vie pour nous. Seigneur, toi qui es le lion de Juda, qui est plus fort que la mort, merci Seigneur parce que tu es devenu l'agneau immolé pour nous sauver, pour me sauver de mes péchés. À toi la gloire. Amen.